La première,
9h-11h,
entrée sans frapper.
Le pianiste, The Reader, au nom de tous les miens, Holocaust, portier de nuit, Anne-Franck, la rafle, elle s'appelait Sarah, la vie est belle, au revoir les enfants, le fils de Saul. Nombreux sont bien sûr les romans et les films qui se sont penchés sur toutes les facettes de l'Holocauste, enfin toutes. Pas toutes. Certains l'ont fait avec talent, d'autres pas. On peut bien sûr pinailler, mais trois films symbolisent les étapes décisives de la représentation du génocide à l'écran. Le premier, c'était en 1956, Nuit et brouillard d'Alain René.
La déportation s'étend à l'Europe entière. Les convois s'égarent, stoppent, repartent, sont bombardés, arrivent enfin. Pour certains, la sélection est déjà faite. Pour les autres, on trie tout de suite. Ceux de gauche iront travailler. Ceux de droite... Ces images sont prises quelques instants avant une extermination.
Le deuxième, c'est en 1985. C'est Shoah, bien sûr, de Claude Lanzmann.
Mio papà.
Et quanti anni il papà?
85 anni mio papà. Il era Zacken.
85 anni è morto in
sì.
Auschwitz.
Auschwitz. Sì. Dopo 85 anni è morto a Birkenau. È mio papà.
Il papà tutto il viaggio.
Sì. La famiglia tutta morti. È primo de gas, dopo del crematorio.
Le troisième, c'était en 1993, La liste de Schindler de Steven Spielberg.
Wolf.
More, il en faut plus, disait Liam Neeson qui interprétait Oscar Schindler. On se souvient tous de l'histoire d'Oscar Schindler, industriel allemand qui réussit pendant la Seconde Guerre mondiale à sauver environ 1100 juifs promis à la mort dans le camp de concentration de Plaszow. C'est à ce dernier que nous consacrons notre émission aujourd'hui à travers deux livres. Le premier, c'est La quête de Schindler de Thomas Kinelli. C'est un livre dans lequel le célèbre auteur de la liste de Schindler, paru en 82, raconte pour la première fois comment il a découvert l'existence d'Oscar Schindler et l'enquête passionnante qu'il a menée sur les traces de cet homme. Et puis l'autre livre dont nous avons parlé avec son auteur, c'est L'étoile jaune et le manteau rouge, une étude de la liste de Schindler, sorti aux impressions Nouvelles, livre de Nicolas Livecki, qui est docteur en cinéma. On va retrouver Nicolas Livecki dans quelques poignées de minutes, mais Sébastien Ministru, je voulais commencer avec vous. Et ce livre qui s'appelle La quête de Schindler, qui est un livre assez incroyable.
C'est un livre très délicat, c'est un livre pas triste du tout et c'est pas du tout un livre coup de poing. On connaît évidemment le film de Spielberg, La liste de Schindler, cet Oscar, vous l'avez rappelé Jérôme. On l'a su mais on l'a oublié, le film est adapté du livre, d'un livre de Thomas Kinelli qui est un auteur australien.
Australien, oui, tout australien. À fait, j'ai dit
le bouquin est paru en 1982 et cet écrivain qui n'est pas très connu chez nous, il a été un peu connu à l'époque de la sortie du bouquin, au moment où le film sortait, et puis il est plus connu dans les pays anglo-saxons, cet écrivain australien, Thomas Kinelli, a écrit donc un autre livre sur l'enquête qu'il a menée pour construire la liste de Schindler. C'est un bouquin qui est paru en 2007 sous le titre Searching for Schindler et qui a été traduit l'année dernière en français. Ça s'appelle donc La quête de Schindler. C'est un peu le livre du livre, le making of. Et c'est franchement formidable. C'est formidable de la première à la dernière ligne. Dans La quête de Schindler, Thomas Kinelli raconte comment il a, mais complètement par hasard, rencontré l'homme qui allait lui livrer pour la première fois l'histoire d'Oscar Schindler, donc cet industriel allemand qui, durant la guerre, va faire travailler des juifs dans ses usines et va en sauver un bon millier. L'histoire est connue parmi les survivants de la Shoah, pas très dans le grand public, elle n'est pas encore retenue par l'histoire. Et cet homme qui va donc lui donner, il va lui livrer l'histoire d'Oskar Schindler, s'appelle Leopold Pfefferberg, on l'appelle Paul Deck. Il a construit sa petite vie avec sa femme et ses enfants sur des magasins de maroquinerie aux États-Unis. Et un jour, en 1980, Kennelly entre dans une de ses boutiques, le Handbag Studio, à Beverly Hills, pour acheter un attaché caisse, pour vous dire franchement...
Comme quoi la vie, ça bascule bêtement des fois.
Un attaché caisse, quoi, voilà. Et la conversation se noue autour de cette transaction, on va dire, il va acheter un attaché caisse, se noue avec Paul Deck, qui est un type très volubile, assez bavard, un peu envahissant. Et il découvre dans la conversation que Kennelly est écrivain. Oh, écrivain, magnifique, formidable, vous avez un livre. Il lui montre un livre qu'il a. C'est vrai, vous êtes... Et donc, ce type commence à lui raconter l'histoire d'Oskar Schindler. Ne me demandez pas pourquoi il le fait. Il le fait, voilà. Et il lui dit, moi j'étais sur la liste avec ma femme, voici mon fils, venez dans l'arrière-boutique, je vais vous montrer des photocopies, de documents, de la liste, et si vous voulez, je vous donne tout, et vous allez écrire un livre, parce que vous allez nous écrire le livre qui va être définitif, et ce sera un livre qui va vous rapporter le prix Nobel. Ne me demandez pas pourquoi ce type lui raconte tout ça, il le fait.
On imagine, est-ce que Kennelly est sorti de la boutique en ayant dit oui directement ?
Mais presque, tout à fait. Kennelly, Ellie hésite évidemment. Évidemment, il va se dingue, lui apporter des documents qui datent de la guerre avec des agrafes rouillées. Il ne se sent pas légitime en plus pour écrire ce livre. Il explique à Paul Deck que il ne se sent pas légitime parce que je ne suis pas juif. Évidemment. Mais ce n'est pas grave, vous n'êtes pas juif, tant mieux, vous ne serez pas partie prenante. L'autre répond, je n'y connais pas grand-chose. Vous n'y connaissez pas grand-chose, ce n'est pas grave, vous connaissez les hommes. Vous connaissez l'humanité. C'est tout ce qu'il faut connaître pour raconter cette histoire. Vous n'en avez pas besoin de plus. Et c'est ainsi, en fait, que va naître une amitié entre les deux hommes qui va conduire au livre La liste de Schindler, qui va conduire au film La liste de Schindler. C'est une histoire assez dingue qui fait ricocher. Et donc, il se lance, flanqué de son Paul Deck, qui est un personnage hyper important et hyper présent dans le livre. Et franchement, le portrait qu'il en fait est succulent. C'est un vrai personnage de film, exubérant, sans gêne, fonceur. Le mec, la première fois qu'il rencontre Spielberg, il l'appelle Steve. Il dit « Steve, on va faire ça !» Et « Steve, on va faire ça !» Il n'arrête pas d'appeler Spielberg au téléphone. Je veux dire, c'est le tonton sans gêne qu'on a juste envie de cacher, quoi. Mais bon, Spielberg arrive très loin dans le récit et dans le livre, presque à la fin, puisque l'essentiel du livre de Thomas Connelly est consacré à l'enquête qu'il a menée sur ces juifs qu'on a appelés les Schindlerjuden, guidés par les bons conseils de Paul Deck. C'est lui qui a toutes les informations et c'est lui qui a toutes ses entrées. Et donc Connelly veut, il explique aussi qu'il veut faire un travail à la façon du nouveau journalisme, à la façon de Tom Wolfe et de Truman Capote, donc façon investigation sur le terrain. Et il a son premier rendez-vous avec son premier rescapé de Schindler à Sydney, le docteur Roman Rolzek, et puis il enchaîne. La famille Korn, la famille Rosner, la famille Heuberger, il voyage partout dans le monde pour recueillir les témoignages, Francfort, Varsovie, Cracovie, Lodz, Tel Aviv, Jérusalem, il rencontre tout le monde et il voit apparaître évidemment un portrait d'un personnage très charismatique, très coureur aussi, je veux dire, il multiplie les conquêtes, il fait souffrir sa femme, avec parfois des avis un peu plus contrastés et moins béats que ceux qui lui vouent vraiment un culte parce qu'ils l'ont sauvé. Il y a des témoins qui disent que, il n'était pas très net. Je vous cite un extrait d'un dialogue entre un témoin, M. Kitzlinger, à New York, et notre ami Paul Deck. Écoutez, donc c'est Kitzlinger qui parle. Écoutez, il s'est fait plein de fric sur notre dos, ce type, en parlant de Schindler. Paul Deck, mais il t'a sauvé, Henri. Ouais, ça l'a arrangé de nous laisser respirer, mais il s'est quand même fait plein de fric sur notre dos. Ce n'était pas un saint. Tu aurais préféré que ce soit un fils de pute qui nous affame et nous tabasse. Ok, il ne nous affamait pas, il ne nous tabassait pas, mais il nous a utilisés. Mais qu'est-ce qui te rend amer ? Lui demanda Paul Deck. Je ne suis pas amer, mais je te le répète, il s'en est mis plein les poches. Et il a tout perdu, mais pas de notre faute. Voilà, donc c'est aussi un portrait contrasté.
Le personnage ambigu de Schindler est décrit dans le roman de Kennelly et quand même aussi exposé dans le livre de Spielberg, dans le film de Spielberg, dont on parlera avec Thomas Livetti dans quelques instants.
Voilà, et donc le livre finalement se construit comme ça, Nicolas. Rencontre après rencontre. Ça prend vraiment beaucoup de temps et à un moment donné, le livre est fini. Et le livre va sortir, il va paraître. C'est un livre qui a commencé complètement par hasard dans une boutique d'attaché-case. Le livre qui a failli s'appeler L'Arche de Schindler, mais voilà, l'éditeur américain trouve que l'Arche de Schindler, l'Arche de Noé, ça peut vexer la communauté juive. Et il sort sous l'appellation roman. On rappelle que la liste de Schindler, c'est un roman qui est construit donc sur ces témoignages vrais, mais c'est d'abord une fiction. Et c'est un bouquin qui est porté à bout de bras par notre ami Paul Deck, qui, toujours dans la nuance, hurle que ça va te rapporter le prix Nobel. Je veux dire, il enquiquine l'éditeur parce que l'éditeur ne fait pas un tirage assez fort. Je veux dire, ce Paul Deck est partout et il a raison. Le livre va devenir un gros succès. Il va décrocher le Booker Prize à défaut du Nobel. Et puis, mieux que tout, assez rapidement après l'apparition, deux maisons de production marquent leur intérêt pour l'adaptation cinéma. Parmi les deux, il y a Amblin, la maison de Spielberg. Alors, il raconte dans le livre, et c'est formidable, la première rencontre avec Spielberg. Et il se dit, ouais, ok, il est intéressé, mais ça se termine sur on se reverra. Il ne va jamais le faire, quoi. Et en fait, il va faire le film en 1983. Donc, il signe le contrat d'adaptation. Il va falloir attendre 10 ans encore parce que Spielberg, il sort de E.T., il va faire Indiana Jones, il va faire Hook, il va faire Jurassic Park. Donc tous ces films de grand divertissement qui, c'est moins qu'on puisse dire, tranchent évidemment avec la liste de Schindler. Voilà, et ce livre retrace vraiment avec beaucoup de modestie, beaucoup de délicatesse, tout le temps en mettant en avant ceux qui l'ont rendu possible. En effet, je veux dire, les survivants et ce Paul Deck, l'odyssée de la liste de Schindler, des projets comme on en rencontre une fois dans sa vie. Et c'est arrivé donc à Thomas Kennelly. Thomas Kennelly, La quête de Schindler, c'est paru chez Sonatine.
Génial, c'est absolument fascinant, hein, je trouve. Merci beaucoup Sébastien Ministru. Et vous allez voir, on va en parler avec notre invité maintenant, Nicolas Livecki, que en fait, c'est pas si étonnant que Spielberg fasse cette liste de Schindler. Parce qu'en fait, c'est pas si éloigné que ça de son univers. On sait que la Seconde Guerre mondiale est quelque chose d'extrêmement important qu'il aborde dans nombre de ses films. Mais si on se souvient que Jurassic Park, et je pense que Nicolas Livecki va confirmer, dans Jurassic Park, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un parc, il y a des barreaux. Il y a un endroit dans lequel on ne peut pas pénétrer et duquel on ne peut pas sortir et sur lequel règne un certain secret. On dit quand même que Spielberg a pensé à ça. Et si on voit par exemple le squelette des dinosaures, vous savez, sur l'entrée du parc, il peut rappeler les insignes de certains SS également. Donc, la liste de Schindler était dans l'aboutissement. On va en parler avec Nicolas Livecki. Ce sera dans quelques instants dans Entrée sans frapper.
La première, Entrée sans frapper.
Il y a toujours Sébastien Ministru, Xavier Van Bugenot et Vienne, Marie-Agnès Baupin. On est autour de la table tous ensemble et on accueille maintenant Nicolas Livecki. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous êtes en direct avec nous de la radio suisse romande à Paris chez nos amis suisses et vous publiez L'étoile jaune et le manteau rouge, une étude de la liste de Schindler. C'est aux impressions nouvelles. C'est notamment pour ça qu'on a voulu faire cette émission autour de Schindler et aussi parce que la polémique finalement elle part du festival de Cannes qui s'est ouvert hier aussi. C'était Le fils de Saul de Laszlo Nemes. Chaque fois que sort un film qui représente finalement de près ou de loin le génocide juif, la Shoah, et les mêmes polémiques reviennent à la surface et c'est vrai. Une des grandes victimes de ces polémiques, c'est systématiquement Steven Spielberg. Pourquoi ? Ben parce que c'est le plus connu. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu le prince d'Hollywood. Pourquoi ? Parce qu'il a fait des grands divertissements. Parce que son film a eu cet Oscar. Parce qu'il a eu un énorme succès commercial aussi. Et donc, c'est vrai qu'on va plus vite vers Spielberg que dans l'autre, notamment parce qu'il a fait un magnifique noir et blanc. Certains ont dit, hein, il a rendu beau la Shoah, ce qui effectivement peut paraître choquant. Et vous faites publier cette étude de la liste de Schindler et vous dites, attention, malgré les polémiques, ce film est un pur chef-d'œuvre.
Oui, non seulement c'est un pur chef-d'œuvre, mais c'est en train de devenir un classique, un vrai classique à mon avis. Chaque revision du film, en fait, on se rend compte que le film est beaucoup plus complexe que ce à quoi on a voulu essayer de réduire. C'est-à-dire que quand le film sort il y a 20 ans, donc le film est très dense, il fait quand même plus de 3 heures. C'est plusieurs récits entremêlés. Il y a le récit d'Oscar Schindler, il y a le récit de la population juive. Donc c'est un film qui est très complexe au niveau du scénario, même si avec la facilité de Spielberg à raconter une histoire, on a l'impression comme ça que tout s'enchaîne très bien. Et il y a des scènes qui heurtent, qui font parler, notamment la scène des douches ou la scène de la petite fille au manteau rouge. Et finalement, la polémique, elle prend à partir de ces deux, trois séquences qui, encore une fois, sur un film de trois heures, sont deux, trois séquences, et vont rester au fil des années les deux, trois séquences auxquelles on va vouloir réduire le film. Mmh. Et en fait, on se rend compte de vision en vision que le film, il est tellement incohérent, deux, complexe, que ça serait peut-être bien de voir un petit peu au-delà de ces séquences, mmh. et les deux séquences aussi, de regarder un peu ce que Spielberg voulait faire avec ces deux séquences.
Et c'est ce que vous faites dans une étude de Lise de Schindler. On va venir à ces deux séquences, et à la petite fille, bien sûr, au manteau rouge, et à cette fameuse scène des douches, hein, on s'en souvient, c'est de l'eau qui sort finalement, hein, parce que le gazage, il n'existe absolument aucune image, hein, et elle ne peut pas être représentée, mais c'est vrai que Spielberg nous a fait croire qu'il allait la représenter. Il nous a mis dans la terreur, bien évidemment. On va en parler longuement avec vous, Nicolas Livecki. Mais je voudrais qu'on recommence par le début du livre. Le premier chapitre, il s'appelle « Du témoignage à la fiction ». Effectivement, la grande question, c'est est-ce qu'on peut fictionnaliser, est-ce qu'on peut représenter. Mais j'aimerais qu'on retourne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La première chose qui va apparaître, c'est bien évidemment des témoignages purs et durs.
C'est d'abord des témoignages qui sont écrits pendant la guerre, c'est-à-dire que déjà pendant la guerre, les victimes du génocide écrivent. Donc l'exemple, je dirais le plus canonique, c'est la jeune Anne Frank qui est enfermée dans son annexe à Amsterdam et qui pendant ces années de captivité va tenir au jour le jour un journal dont qu'elle souhaite publier après guerre. Donc non seulement elle l'écrit au jour le jour, mais elle le réécrit dans l'optique d'en faire une version grand public pour pouvoir rendre accessible un peu le témoignage de ce que sa famille et la communauté juive subissent pendant ces années de guerre. Donc cette notion de témoignage, elle est déjà présente pendant le conflit. Elle devient évidemment encore plus importante après les conflits quand on se rend compte de l'ampleur des massacres et quand les survivants ont envie de témoigner. Donc
le plus célèbre d'entre eux étant probablement Primo Levi.
Primo Levi, bien sûr, qui va faire donc son livre aussi. C'est un homme qui, par son style très accessible, par le fait que lui aussi a le fait de témoigner, il essaie aussi de rendre accessible aux plus jeunes. Donc il a des ambitions pédagogiques aussi, un peu pédagogiques, bon le mot est un peu galvaudé, mais en tout cas des envies de transmettre et de manière accessible ce qu'il a vécu, ce qui fait que son livre est accessible, donc va rencontrer du succès et permettre du coup d'être un succès éditorial qui encore aujourd'hui est très important de la littérature d'après-guerre.
Et puis ce qui devait arriver arrive, bien évidemment, c'est qu'après le témoignage va venir la fiction. On va y arriver tout d'abord par le roman, par l'écrit, j'imagine.
On y arrive par le roman. Donc on a par exemple Robert Merle avec La mort est mon métier qui va faire un livre qui assimile à du roman, donc qui est une œuvre d'imagination, mais évidemment basée sur des faits réels. Et là, la polémique vient du fait, mais est-ce que le choc a été tellement immense avec le génocide, est-ce qu'on a droit de faire de la littérature de fiction, de romancer, c'est-à-dire en gros de créer de l'artifice, de créer du beau aussi, parce que si on commence à faire la littérature de fiction, on commence aussi à entrer un peu sur ce terrain-là. Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas comme ça une espèce de pont immense entre ce qu'a été la réalité des événements et ce qu'un écrivain de roman, puis ensuite des cinéastes, vont pouvoir recréer et stimuler l'imagination d'un public? Est-ce qu'il n'y a pas un fossé entre l'effet réel et l'imagination?
Et en termes de fiction, oui, excusez-moi, allez-y.
Non, j'ai terminé, allez-y. Ah,
et en termes de fiction, peut-être que l'œuvre la plus complète, la plus incroyable, la plus puissante ne sera pas un roman à cette époque, mais bien une bande dessinée, et c'est Maus d'Art Spiegelman.
Alors, Art Spiegelman, oui, est pour, en tout cas pour moi, une des vraiment essentielles d'abord, parce qu'elle est à chemin entre témoignage et fiction, parce que c'est d'abord quand même Spiegelman, Maus, c'est d'abord le témoignage de son père, le récit de son père, qui l'a recueilli et qui met en bande dessinée. Donc on est quand même dans le témoignage, même si c'est un témoignage du coup au deuxième degré, ce n'est pas le père de Spiegelman qui raconte ses mémoires, c'est son fils qui les raconte via le dessin. Mais surtout l'originalité de Maus, c'est le médium de la bande dessinée qui permet... d'avoir les mots qui sont donc tous les témoignages, que ce soit dans le documentaire ou à l'écrit, qui sont quand même le premier vecteur de transmission du génocide. Mais du coup, l'image, parce que grâce à des dessins très simplifiés, puisque dans Mao, on se souvient que les nazis sont représentés par des chats et les juifs par des souris, ça permet du coup une simplification du dessin qui permet de représenter des choses très très violentes, dans ce qui a été le génocide juif, évidemment, de manière du coup très simple et du coup de figurer des choses qu'on ne pourrait pas représenter par d'autres moyens. Et notamment, par exemple, l'exemple que je peux prendre, c'est l'exemple des massacres d'enfants que Spiegelman dessine. On peut voir à un moment dans sa bande dessinée un chat prendre un petit enfant par la jambe et l'écraser contre un arbre. Scène qui, par exemple, pour un cinéma de fiction, Spielberg avait dit lui-même qu'il ne pouvait pas représenter des nazis qui tuaient des bébés, alors que la réalité, c'était ça.
Effectivement, il y a des choses qui sont au-delà de la représentation. On va en parler justement. Est-ce qu'on va arriver à l'histoire du cinéma? On va arriver à Alain René, à Lanzmann, bien évidemment, et son Shoah, et à la haine de Lanzmann pour Schindler. Lanzmann, il faut quand même un peu l'avouer, hein, qui joue très souvent le vieux con à dire la Shoah, c'est moi, hein, au cinéma.
Non,
faut pas non plus
pas,
avoir peur de le dire. Vous n'êtes pas d'accord? Ah ben justement, on va polémiquer ensemble après, si vous voulez. Vous êtes d'accord?
Je ne parlerai pas de haine. Je ne pense pas que Claude Lanzmann ait une haine envers Spielberg et envers les de Schindler. Et je ne pense pas qu'il joue non plus les vieux cons. Ce qu'il faut comprendre, d'ailleurs, il faut séparer deux choses. Il faut séparer Lanzmann, l'artiste, le cinéaste, et Lanzmann, le polémiste, qui est un art de la polémique qu'il aime beaucoup manier. Il faut savoir qu'il défend son œuvre parce que c'est aussi un peu il a toujours été un très bon attaché de presse de son œuvre et de ses films. C'est quelque chose qui n'est pas évident pour un réalisateur. Beaucoup de réalisateurs ne le font pas. Lui le fait, et donc il a toujours fait comme ça, un peu virulent, en choisissant bien les mots. Ce qu'il faut voir avec la liste de Schindler, c'est que la liste de Schindler, quand Spielberg le fait, ça fait, disons, vous l'avez dit tout à l'heure en parlant du livre de Thomas Kinelli, ça fait 10 ans qu'il a les droits. Pendant ces 10 ans, Shoah est en train de terminer Lanzmann, qui a pris pareil, je ne sais plus, 10 ou 15 ans, et le sort, mais c'est une œuvre qui va profondément marquer Spielberg. Donc, Shoah, c'est un film fait par Lanzmann, qui est à la croisée de la philosophie, du journalisme, du cinéma, bien sûr, et qui est d'abord une œuvre où il faut retrouver, on est à une période des années 70, au moment il fait son film où on essaye un peu d'oublier tout ce qui s'est passé, et lui va essayer de retrouver déjà tous les survivants, que ce soit les victimes ou les bourreaux, les faire parler et de faire du coup cette œuvre monumentale qui fait 9 heures, qui est Shoah. Donc c'est une œuvre qui marque profondément Spielberg, parce que déjà c'est la première fois qu'on entend tout le monde parler là-dessus. Mais Lanzmann, quand il défend son film, du coup il défend aussi ce que lui s'est fixé comme critère, c'est-à-dire que quand il fait son film, il le fait avec des critères bien précis. Il veut que ce soit que ce soit filmé au présent, que ce soit le présent qui soit important pour montrer que effectivement la guerre a eu lieu, mais on va pas considérer que
pas d'image d'archives,
parce que les gens sont encore pas d'image d'archives, parce que les images d'archives peuvent ce qui l'intéresse sont les traces du présent. Donc les traces du présent, c'est aller filmer sur les lieux mêmes où ont lieu ces crimes là et interroger la parole de ceux qui ont participé, donc soit en tant que victime, soit en tant que bourreau, soit en tant que témoin à ce conflit. Mais du coup, il se fait des critères bien précis de ce que lui veut faire. Pendant que lui est au travail, au fait, donc 10 ans, 15 ans avant la liste de Schindler, sort une série télévisée américaine qui s'appelle Holocaust. Qui est évidemment le contraire de tout ce que lui est en train de faire. C'est-à-dire que c'est une série où on va. C'est une série télévisée, c'est un peu. Je vais être un peu méchant, mais c'est un peu la petite maison dans la prairie à Auschwitz. C'est un peu ça, Holocaust. Même si c'est très sérieux en termes de ce que, de ce que ça veut transmettre, que tout est dit, la violence n'est pas du tout édulcorée, mais ça reste un truc avec très pompeux, très, très narratif, etc. Et donc, Lanzmann écrit un texte où il dit, moi, Holocauste, c'est tout ce que je ne veux pas, parce que si on part comme ça sur une série télévisée, on est un peu dans la consolation de ce qui s'est passé. Moi, je veux faire le contraire. Il dit, on ne peut pas faire de fiction sur l'Holocauste. Donc, entre-temps, on lui sort Shoah, et quelques années après, Spielberg sort la liste de Schindler.
Et justement, on va en parler avec vous, Nicolas Livicki, excusez-moi, dans quelques instants, dans la suite de cette émission. À tout de suite.
La première, entrée sans frapper.
Nicolas Livy qui est toujours avec nous à l'occasion de la sortie de l'Étoile jaune et le manteau rouge, une étude de la liste de Schindler. Vous êtes docteur en cinéma, Nicolas Livy. On va maintenant vraiment plonger dans cette fameuse liste de Schindler, cinématographiquement parlant, sortie en 1993, cet Oscar, hein, dont meilleur scénario, meilleur film, meilleur réalisateur, hein, un Oscar extrêmement important. Il va être un peu décrié par la presse, il va être décrié par Claude Lanzmann, il est décrié par certains, etc. Pourquoi ? Ben, peut-être parce qu'en fait, tout le monde estime que Spielberg n'a pas le droit de s'attaquer au génocide, d'autant plus qu'il est un grand, grand représentant de l'entertainment à Hollywood et qu'un entertainer ne peut pas se pencher sur les génocides juifs.
Oui, alors ce roi de cette image, en fait, cette réputation de roi de divertissement, c'est vrai qu'elle lui colle un peu à la peau à Spielberg. Si je reprends votre chronique de tout à l'heure, quand votre chroniqueur a dit que Spielberg acquiert les droits du livre La liste de Schindler en 82, mais qu'il nous tente en 93, il a cité trois films pour dire, entre-temps, il tourne beaucoup et des films qui sont un peu à des milliers de kilomètres de La liste de Schindler, Indiana Jones, Hook, Jurassic Park. Sauf que Spielberg ne fait pas que ces trois films-là, il tourne aussi La couleur pourpre, il tourne aussi Empire du Soleil. Donc on a un peu cette image de divertissement, mais l'œuvre de Spielberg est une œuvre d'une très très grande cohérence. Bien sûr. Un réalisateur qui, depuis qu'il est très jeune, a les pleins pouvoirs à Hollywood, ce qui n'est pas rien. Ils sont que deux dans ce cas-là, c'est lui et James Cameron. Et il fait ce qu'il veut et il tourne beaucoup. On a eu Le Pont des Espions qui est sorti il y a trois mois. Là, il tourne. Il y a Le Gros Géant qui est présenté à Cannes cette semaine. Mais chaque film, en fait, se répond par rapport à ses préoccupations, ses obsessions, ses angoisses. Et au fait que le film soit un gros succès public ou qu'il ne soit pas, que ce soit un film d'histoire, un film d'aventure ou quelque chose, ne sont pas forcément des choses qui rentrent en ligne de compte de lui en tant qu'artiste.
Nicolas Divec, il nous reste 5 minutes, donc il y a encore beaucoup de choses dont on l'a parlé, on va essayer d'aller à l'essentiel. C'est extrêmement important que Spielberg fasse le film, parce qu'il y a quand même, on explique qu'en fait aux États-Unis, hein, on sait qu'il s'adresse aux ados, 23% avaient entendu parler de la Shoah, 60% ne savaient absolument pas ce dont il s'agissait. Ça fait quand même très peur. Je voudrais qu'on vienne sur ces deux fameuses scènes. Tout d'abord, la petite fille au manteau rouge, on s'en souvient tous, bien sûr, dans les deux de Schindler. Pourquoi est-ce que vous pointez particulièrement cela?
D'abord, parce que pour tous ceux qui ont vu le film, c'est la scène la plus marquante et la plus émouvante. Ensuite, c'est un film en noir et blanc, c'est la seule scène au milieu du film où il y a un point de couleur qui intervient au milieu du film, donc c'est quand même pas rien, c'est gonflé quand même comme procédé de mise en scène. Et ensuite, parce que ce que dit la séquence, c'est d'abord la prise de conscience de Schindler, c'est avec cette petite fille en rouge qui va voir survivre pendant cette liquidation du ghetto, qui va établir sa fameuse liste pour sauver des vies. Donc c'est vraiment le symbole de la prise de conscience de Schindler. C'est aussi, en tant que Spielberg, le cinéaste, cette volonté de marquer en fait, l'importance de la survie dans son film, qui fait un film, c'est un film effectivement de survivants, de témoins, de ceux qui ont vu les autres mourir. Et donc, la scène est aussi importante pour ça. Et enfin, symboliquement, Spielberg a aussi dit que c'était une scène importante pour lui, parce que cette tache rouge, c'était en fait la mauvaise conscience des Occidentaux qui savaient ce qui se passait et qui n'ont rien fait pour interrompre le génocide.
Alors l'autre grande scène, bien sûr, hein, c'est celle qui a créé le plus de polémiques parce qu'elle est effrayante, c'est la scène des douches.
La scène des douches, elle pose problème parce qu'effectivement, là on s'attend dans la séquence à voir que ce soit du gaz qui sorte, c'est de l'eau qui sort. C'est de l'eau qui sort, mais la séquence en fait se poursuit. C'est-à-dire que les ouvrières de Schindler qui échappent au gaz quittent cette salle-là, mais Spielberg insiste vraiment que, attention, les ouvrières de Schindler ont été sauvées à Auschwitz, ce qui s'est passé dans la réalité, hein, ce que raconte Thomas Kennedy dans son ouvrage, mais Auschwitz n'était pas un lieu où on prenait des douches avec de l'eau. Les gens mouraient vraiment et les ouvrières sortent. Qu'est-ce qu'elles voient ? Elles voient des files de gens descendre dans ce qui sont les chambres à gaz et la caméra remonte. On voit la cheminée avec la fumée qui sort et évidemment la finalité du génocide, c'est-à-dire qu'après les chambres à gaz, les fours crématoires, Spielberg le montre. Il y a une musique de John Williams qui couvre toute la séquence. Elle s'arrête précisément au moment où on voit la fumée, manière de dire attention, je monte de l'eau parce que encore une fois, je suis dans le témoignage des survivants, mais ce qui s'est passé pour la majorité des gens, pour 6 millions de juifs, ce n'est pas ça. La finalité, c'est la fumée qui sort des cheminées.
On parlait de John Williams, j'aimerais qu'on réécoute 2-3 notes de ce thème de John Williams qui était sublime, hein, on s'en souvient, dans cette liste de Schindler. C'est absolument sublime. Mmh. Il n'y a pas de mots. Sébastien Ministru.
Oui, je voulais revenir un instant sur Nicolas, sur la fameuse scène de la douche, parce que c'est une scène qui automatiquement pose un questionnement éthique. Ce qu'on a reproché aussi à Spielberg, c'est d'avoir, durant toute cette scène, créé quelque chose qui s'appelle du suspense. C'est d'avoir créé un suspense autour de cette scène terrible.
Alors là, je renvoie, au moment de la sortie, donc, il y a eu des critiques négatives sur le film, mais il y a aussi des critiques positives, et il y a eu notamment un très beau texte de Camille Nevers paru au Cahier du Cinéma, dans les Cahiers du Cinéma, où elle parlait de cette scène, et elle disait, voilà, c'est une scène impossible, Spielberg le sait, tout son film, toute la mise en scène, la question de la morale est posée du début à la fin de son film, mais il ne peut pas passer, il sait que c'est le cœur de son film, il ne pourra pas passer à côté de cette séquence-là. Donc le seul moyen de montrer, au fait, ce qu'on pu ressentir les victimes et celles qui pensaient aussi, qui ont échappé, mais qui ont pu craindre ce moment-là, c'est la peur, ce qui est quelque chose qu'il manie très bien au cinéma. Mm-hmm. Et donc il fait une scène de terreur, mais ce n'est pas une scène de manipulation. Je ne crois vraiment, que ce n'est pas une scène où Spielberg a voulu manipuler le public, faire du suspense, comme on dit. Il a voulu par contre créer un sentiment d'angoisse, qui est quand même quelque chose qui, si vous avez vu La Guerre des Mondes 10 ans après, ce n'est que ça, son cinéma. C'est quelqu'un de très angoissé et qui veut transmettre en tant qu'artiste des angoisses qui sont vraiment de l'ordre de quelque chose de complètement très difficile à communiquer. Mm-hmm. Quand on sort, quand on voit La Guerre des Mondes, quand on voit la plupart des films de Spielberg, on a une peur qui n'est pas seulement la peur du suspense de qu'est-ce qui va arriver. C'est une peur qui est quand même beaucoup plus animale que ça. Et la scène des douches chez Spielberg, c'est là où c'est un peu la quintessence de son cinéma. C'est que voilà, c'est une scène de terreur, mais d'une terreur pour qu'elle nous marque, pour qu'on ait ces images qui soient gravées chez nous. Mais c'est pas une scène de suspense, ce n'est pas une scène de manipulation. En tout cas, je ne le pense pas.
Voilà, si ça vous intéresse, tout ça, lisez ce livre de Nicolas Livecki, L'étoile jaune et le manteau rouge, une étude de la liste de Schindler. C'est passionnant, hein, c'est sorti aux impressions nouvelles. Et puis lisez aussi cette quête de Schindler chez Sonatine par Thomas Kinili. Merci beaucoup Nicolas Livecki d'avoir été avec nous. Merci Sébastien Ministru, vous restez avec nous puisqu'on vous retrouve dans quelques instants pour la revue de presse culturelle.